Fréquence protestante. La valeur de l'homme. Emmanuel Taïeb.
Une histoire de la boisson. Bonjour à tous et toutes, très heureux de vous retrouver en direct des studios de Fréquence Protestante en compagnie de mon invité Mathieu Lecoutre, historien des pratiques alimentaires et qui vient de signer un livre sur l'histoire des boissons et du boire en France, le goût de l'ivresse. Un livre qui est au croisement de l'histoire des pratiques matérielles et de l'histoire des mentalités. Parce que la relation au breuvage dit des manières d'être et des manières de se représenter le monde. Elle dit la commensalité et l'identité du groupe. Non seulement les façons de boire ont évolué en France depuis le Moyen-Âge, mais elles reflètent toujours des pratiques sociales différenciées. Le vin est rapidement la boisson des élites, tandis que le cidre ou la bière sont plus accessibles. Étrangement, l'eau a été une boisson négligée. On boit bien sûr pour le plaisir, mais aussi pour se distinguer, pour essayer, ou même pour boire le monde quand l'Europe s'ouvre à de nouveaux territoires. Le café et le thé font ainsi une apparition tardive. On boit aussi pour la santé et très tôt les institutions chargées de diriger les consciences, que ce soit l'Église ou la médecine, norment ce qui doit être bu, en quelle quantité et comment il faut éviter l'ivresse. Mais les hésitations sont grandes et dans la doctrine chrétienne, la gourmandise oscille entre péché mortel et péché véniel. Ce qui entre dans le corps continue d'avoir une importance capitale. Selon l'état de la science, le lait est fortement recommandé ou au contraire considéré comme allergène. L'alcool est une passion pour certains, mais un fléau de santé publique et de mortalité pour l'État. Aujourd'hui, la liste des boissons semble infinie. Les rafraîchissements du passé sont toujours là, mais de nouveaux goûts apparaissent. La liste des cocktails, par exemple, est aussi longue que l'imagination. Le boire est devenu un lieu d'expérimentation. On mélange tout, le vin rosé avec le pamplemousse ou la bière au quinoa. Bon à manger, bon à penser, disaient les anthropologues. Et désormais, les historiens peuvent ajouter bon à boire, bon à penser. Bonjour Mathieu Lecoutre.
Bonjour Emmanuel Taïeb.
Mathieu Lecoutre, vous êtes historien, spécialiste de l'histoire des boissons, de l'ivresse et des pratiques de consommation et aussi des excès alimentaires. Je vous reçois aujourd'hui pour discuter de votre dernier ouvrage, Le goût de l'ivresse, boire en France depuis le Moyen-Âge, 5e siècle, 21e siècle. C'est publié chez Belin et c'est sorti cette année, je le dis pour les auditeurs, un ouvrage très dense, très informé, très érudit, très intéressant. Alors justement, Mathieu Lecoutre, comment fait-on pour travailler en historien sur une période aussi longue, c'est-à-dire une période de 1500 ans, et quel type de source on utilise ?
Eh bien, en fait, on utilise l'historiographie et les sources, puisque l'objectif de ce livre était donc de réaliser une synthèse historique. Et étant spécialiste à l'origine de l'époque moderne, je me suis bien entendu inspiré. J'ai utilisé tous les grands précurseurs historiens de l'histoire antique, de l'histoire médiévale, de l'histoire moderne aussi, et puis de l'histoire contemporaine. Donc, Marcel Lachiver, par exemple, Roger Dion, jusqu'à des historiens actuels tels que Florent Quélier ou Christophe Badel. En ce qui concerne les sources, eh bien, j'ai essayé d'aller voir par moi-même, et puis également de réutiliser les sources qui avaient été évoquées par mes collègues historiens. Alors, les sources disponibles, en fait, me font penser à une sorte de tonneau, en fait, un grand tonneau, un tonneau à moitié vide,
d'en parler,
effectivement, ouais. À moitié vide ou à moitié plein, puisque ces sources sont nombreuses, hein, d'où la taille du tonneau, quelque chose d'assez important. Mais évidemment, elles n'ont pas été faites pour l'historien de la boisson. Et l'historien de la boisson doit donc utiliser son esprit critique pour essayer de séparer le bon grain de l'ivraie, enfin, trouver la vérité dans ce qui était évoqué. Je prends un exemple parmi d'autres. Dans les années 1960-70, les historiens ont été un peu attirés par ce qu'on appelle aujourd'hui le mirage quantitativiste, c'est-à-dire essayer de faire l'histoire par les chiffres avant tout. Et donc, quand ils trouvaient des comptes COMPTES, hein, d'établissements religieux, des comptes alimentaires, qui permettaient de voir ce que consommaient les moines, ou des comptes qui étaient liés à des seigneurs, etc., ou des flux commerciaux, eh bien, ils pensaient de prime abord que ces chiffres renvoyaient grandement à une sorte de vérité. Et donc, on aboutissait dans les années 70 à des moyennes de consommation qui, aujourd'hui, sont très critiquées, puisque aujourd'hui, on sait très bien que, par exemple, au Moyen-Âge, l'essentiel de ce qui est bu ou de ce qui est consommé n'est pas enregistré dans les comptes parce qu'il est autoproduit, autoconsommé et il n'est pas introduit dans un flux commercial visible par les sources. Par ailleurs, ce n'est pas parce que des aliments sont entreposés dans un grenier et donc qu'ils rentrent, qu'ils sont comptabilisés comme entrants, qu'ils sont forcément consommés. Et évidemment, une grande partie pourrit, une grande partie disparaît et ça, on ne peut pas le voir, le trouver, le comprendre à travers les sources chiffrées. Donc c'est un travail tout en nuances, en toute humilité, hein, qui essaie néanmoins de donner des grandes idées, montrer les évolutions de la consommation de tout type de boissons. Ça ne concerne pas que les boissons alcoolisées. Hein. Dans mon livre, je parle de l'eau, du lait,
et du café, jusqu'au soda.
De la mondialisation.
On va revenir sur un certain nombre de ces boissons. Mathieu Lecoutre, vous écrivez dans votre ouvrage « Les buveurs consomment du sens, voire des symboles, en accord avec leur manière de vivre et de penser ». Alors, qu'est-ce qui s'attache symboliquement au boire? C'est de l'identitaire? C'est de la commensalité, de la convivialité?
Oui, un peu tout ça. En fait, de l'identitaire, c'est sûr. En fait, ce qui s'attache symboliquement à la consommation, ça peut être, d'une manière générale, des pratiques sociétales, en quelque sorte, donc qui hiérarchisent la société et qui peuvent aboutir à la construction d'identité. Je m'explique. Des constructions sociétales, ça peut être des hiérarchisations, des formes de hiérarchisation par rapport à ce que l'on boit. Également, ça peut renvoyer à des dynamiques de distinction par rapport à ce que l'on boit ou pas.
Distinction sociale.
Effectivement, ça peut renvoyer à des dynamiques d'intégration ou d'exclusion du buveur, puisqu'il, selon ce que l'on boit, on peut boire avec plusieurs individus, ou bien on les accueille, ou bien on les rejette. Que ce soit par rapport à des références genrées, ou par rapport à des références d'âge, ou d'origine, ou de culture, etc. Et finalement, cette construction sociétale qui entoure la boisson peut aboutir à des constructions identitaires qui peuvent être fantasmées, qui peuvent être complètement valorisées, qui peuvent être des identités à différentes échelles et qui peuvent être des identités très ouvertes ou relativement fermées.
Le partage de la table a l'air plus compliqué quand il s'agit du manger que du boire. Je ne sais pas si c'est une impression ou une perception réelle. C'est-à-dire que le partager la table pour consommer du solide, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il y a des régimes alimentaires, il y a des religions, etc. J'ai l'impression, en lisant l'ouvrage, que, au fond, partager la boisson pose un peu moins de problèmes, qu'on peut s'y retrouver plus facilement. Mais je ne sais pas si c'est avéré ou si vous avez perçu ça, Mathieu Lecoutre.
La sphère religieuse est aussi prise en compte, enfin la dimension religieuse est aussi prise en compte. On peut évoquer le vin kasher par exemple, ou bien des interdits alimentaires de l'islam aussi. Donc c'est quand même un élément qui peut être clivant. Mm-hmm. Donc je reviens à ce que je disais, qui peut intégrer, mais qui peut fermer, qui peut ouvrir ou qui peut réduire. Si on quitte la sphère religieuse, on peut aussi évoquer la difficulté parfois qu'ont des convives autour d'une table à consommer la même boisson. Aujourd'hui, si on imagine un repas du dimanche avec les grands-parents, les petits-enfants, etc., toute la famille. Aujourd'hui, les grands-parents sont encore souvent des consommateurs de vin. De plus en plus, les petits-enfants, adolescents, sont des consommateurs de soda et de plus en plus à table. Il peut y avoir une confrontation de générations également et une incompréhension si les grands-parents proposent un bœuf bourguignon et que le petit-fils de 15 ans veut boire du Coca-Cola avec son bœuf bourguignon, par exemple. Ouais. Donc, il y a aussi des difficultés forcément à se rencontrer. Et puis également, si on imagine une table conviviale entre amis avec l'hôte qui propose un grand vin. Et qui, parce que lui a une relation gastronomique à la consommation, esthétisante à la consommation, et il l'offre à ses invités qui, peut-être, ne sont pas du tout adeptes de vin, qui peuvent être abstinents, il y en a 7% aujourd'hui en France. Il peut voir ça comme une frustration, comme un choc, hein, ou comme un manque. Et par ailleurs, même s'ils ne sont pas abstinents, s'ils n'arrivent pas à déguster comme lui le pense, ce grand cru, il peut y avoir, ça peut susciter une tension autour de la table. Donc en fait, on peut aussi cliver en fait. Hein, on
à l'intérieur
peut vraiment
même
à l'intérieur même de la table
partagée.
Effectivement, oui.
La boisson qui nous paraît la plus universellement bue, c'est l'eau. Mais vous montrez, Mathieu Lecoutre, dans votre ouvrage, que pendant très longtemps, il n'est pas si évident de boire de l'eau en France. Pourquoi c'est pas si évident de boire de l'eau?
Alors déjà, la communauté historienne est un peu divisée par rapport à l'importance de l'eau. En fait, on a un problème de source, bon, c'est le cas de le dire, mais vraiment de source historique par rapport à l'eau. Et bon, une partie des historiens pensent que dès le Moyen-Âge, l'eau est la boisson la plus consommée, parce que ça paraît naturel. Et puis l'autre partie est un petit peu plus sceptique. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut être sceptique par rapport à l'importance de l'eau? Eh bien, peut-être pour deux grandes raisons au Moyen-Âge. Hein, l'eau n'est pas aussi potable qu'aujourd'hui. Au Moyen-Âge. Alors, il ne s'agit pas de faire de toutes les villes médiévales des cloaques, hein, pas du tout, mais si on a l'habitude de récupérer son eau dans un cours d'eau qui se situe en aval des activités des tanneurs, des teinturiers, etc., ben là, on a de l'eau qui est extrêmement polluée. Par ailleurs, on peut penser que tous les villages médiévaux possèdent un puits, c'est complètement faux. Donc alors, on peut néanmoins récupérer de l'eau par l'eau de pluie, ce qui est très valorisé, notamment par les théologiens, évidemment, on comprend pourquoi. Donc en ville, ceux qui boivent de l'eau potable, ce sont des élites. Voilà, grosso modo, hein, qui boivent quotidiennement de l'eau potable, ce sont des élites. Mais si vous habitez dans l'espace rural montagnard des Alpes, évidemment, vous pouvez récupérer de l'eau de source extrêmement pure sans aucun problème. Donc là, il y a une diversité en fonction du territoire et en fonction de la catégorie sociale. Et puis également en fonction du moment, puisque plus le temps passe, plus on propose de l'eau plus agréable à consommer. Et pour rester à l'époque médiévale, l'autre raison qui peut réduire la consommation d'eau, ce sont des raisons médicales. À l'époque médiévale jusqu'à l'époque moderne et en héritage de la tradition antique, on applique, quand on est médecin, la théorie des humeurs. Et donc on pense que chaque individu dans son corps a des liquides physiologiques qu'on appelle des humeurs et que, pour expliquer très simplement, qui créent un organisme qui est soit plutôt chaud, soit plutôt froid, soit plutôt humide, soit plutôt sec. Et en fonction de cette caractéristique individuelle, eh bien, la consommation d'eau fraîche n'est pas toujours recommandée. Les médecins recommandent la consommation d'eau fraîche aux ce qu'on appellerait aujourd'hui les adolescents, qui ont plutôt un organisme plutôt chaud, une complexion plutôt chaude.
Il faut les refroidir.
Quand on est vieux, alors vieux à l'époque, c'est au-delà de 40 ans, là on commence à devenir froid, en fait, ça fait penser à la mort évidemment, et donc là il faut se méfier de l'eau fraîche, il faut plutôt boire de l'eau peut-être un petit peu tiède, un petit peu chaude, parce que trop de froid va évidemment créer une maladie. Et puis par ailleurs, les médecins, d'une manière générale, quelle que soit votre complexion, expliquent qu'à table, quand on mange, il ne faut pas toujours boire de l'eau, puisque la digestion, selon les médecins, c'est de la cuisson. L'estomac cuit les aliments et les évacue. Et ce qui importe vraiment aux médecins médiévaux, c'est l'évacuation de ce qu'on ingère pour que le corps reste en équilibre. Et étant donné, on va comprendre leur logique, étant donné que l'estomac est en train de cuire des aliments, si vous mettez de l'eau sur un feu, l'estomac c'est un feu, évidemment le feu s'éteint et la digestion se fait très mal. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux boire du vin et surtout finir le repas avec du vin épicé, donc de l'hypocrase, parce que les épices sont vues comme chaudes. C'est vrai qu'elles chauffent la bouche, hein, la gorge, et donc cette hypocrase est censée favoriser la digestion. Ça a donné à la fin l'existence de notre digestif, qui est justement très fort, très puissant, et son nom l'indique, qui est censé favoriser la digestion.
Favoriser la digestion.
Ouais, ce qui est complètement faux.
Ce qui est faux, on en dira peut-être un mot. Mais alors l'eau est quand même bu sous forme de soupe.
Voilà.
On boit souvent de la soupe au Moyen-Âge et encore après.
Vous avez raison. Oui, l'eau, la manière de consommer l'eau la plus fréquente, c'est la soupe. Alors pourquoi la soupe? Parce qu'en fait l'eau est chauffée donc on fait bouillir l'eau, ce qui permet de la nettoyer entre guillemets, voyez, de la purifier un petit peu, et donc on l'associe à des légumes. Et alors d'après les sources disponibles, on pense que au XIIIe, XIVe siècle, sur les tables de la majorité des Français, on a de la soupe un repas sur deux. Voilà, donc c'est une véritable tradition qui s'est perdue aujourd'hui avec l'exode rural, puisque les Français se sont éloignés des légumes, des plantes à leur disposition qu'ils avaient dans leur jardin, et donc ils ont petit à petit abandonné cette soupe et ils boivent aujourd'hui de l'eau minérale en bouteille qu'on achète dans les grandes surfaces depuis les années 60.
Mais pas tant qu'il faudrait, parce que vous rappelez dans votre ouvrage qu'on n'en boit qu'un demi-litre par jour, alors que la recommandation médicale c'est 1,5 litre, donc on est quand même très très loin de ce qu'il faudrait faire.
Mais on n'a jamais bu autant d'eau. Hein. C'est-à-dire qu'en moyenne, un Français boit 200 litres, à peu près 200 litres d'eau par an.
Donc c'est vraiment maintenant une boisson qui n'a jamais été autant consommée finalement, même si on est en dessous de ce que les médecins voudraient.
Voilà, fin 20e, début 21e siècle, on est à l'apogée là pour l'instant de la consommation d'eau. Ce qui est très intéressant, c'est que l'eau, on la boit tout le temps. On ne la boit plus seulement à table, mais constamment. Quand il fait chaud, quand on se promène, quand on fait du sport, elle est disponible un petit peu partout.
Oui, les gens se promènent d'ailleurs avec des bouteilles. Ouais. On va écouter une des nombreuses publicités pour les produits laitiers, car apparemment il faut faire de la publicité pour les produits laitiers qui sont un peu mal aimés dans notre pays.
Manger 3 produits laitiers par jour, c'est pas compliqué. Imagine, le matin, tu pourrais manger un yaourt avec le petit chaperon rouge.
Le midi, un morceau de fromage avec Maître Corbeau.
Et le soir, boire un verre de lait avec Perrette et son pout au lait.
Alors pourquoi manger
la grand-mère
du petit chaperon rouge?
C'est pas bon,
c'est pas gentil.
Et en plus, ça tremolit.
Tu tires même plus sur tes pattes.
Les produits laitiers sont nos amis pour la vie.
La valeur de l'homme, une histoire de la boisson. Nous sommes en compagnie de Mathieu Lecoutre. Alors, dites-nous quelques mots, Mathieu Lecoutre, sur l'histoire du lait. Dans votre ouvrage, vous demandez à un moment si le lait n'est pas un bouc émissaire sanitaire. Pourquoi donc ?
Oui. En fait, cette publicité, là, date donc du début des années 2010.
Mmh, absolument.
Et depuis, en fait, le lait subit de nombreuses attaques, alors qu'ils peuvent être avérées ou non. Enfin, c'est pas à l'historien de juger, mais par rapport à des allergies de plus en plus constatées par rapport à la consommation de lait. Et donc c'est pour ça que l'un des titres de sous-partie, c'est bouc émissaire de sanitaire, puisque aujourd'hui la consommation de lait diminue. Donc en moyenne, un Français consomme 50 litres de lait par an. C'était le double dans les années 60, dans les années 1960. Donc ça recule aussi. Et le moment où on consomme du lait, c'est évidemment essentiellement au petit déjeuner, mais même au petit déjeuner, ça recule, puisque de plus en plus d'enfants, enfin de jeunes, c'est surtout consommé par des jeunes, remplacent le bol de lait par du jus de fruits. Donc les boissons sucrées de la mondialisation qui peut-être ont un marketing plus efficace ou peut-être moins allergique,
inquiétant. En tout cas, il y a nécessité de faire de la pub parce que quand même oui. Les produits laitiers participent de la calcification, enfin il y a
effectivement
des éléments...
Alors ça c'est pas nouveau quand même, en fait, puisque jusqu'aux années 1950 la consommation de lait était relativement réduite en France, hein. L'apogée semble que ce soit les années 1960. Et il y a un homme politique qui est attaché à cette consommation de lait, c'est Pierre Mendès France, donc président du Conseil en 1954-56, et il est resté notamment dans l'histoire, par rapport à mon champ de recherche sur l'histoire de l'alimentation, comme étant le buveur de lait à l'Assemblée nationale lorsqu'il prononçait des discours, et il ponctuait ses discours de consommation de lait, ce qui avait choqué une grande partie des Français, pour qui à l'époque la boisson totem c'était évidemment le vin. Et en tant que président du Conseil, il a introduit le lait à l'école. En fait, il était issu en tant que jeune député d'un département normand, donc de production laitière, et évidemment pour satisfaire ses électeurs, et puis sûrement par conviction forte, il a valorisé la consommation de lait, il était engagé dans une lutte contre la consommation excessive d'alcool, et c'est lui qui fait sortir, on pourrait dire, les boissons alcoolisées de l'école, puisque jusqu'au milieu des années 50, les adolescents ont le droit de consommer du vin à la cantine.
Voilà. Oui, moi j'étais dans un lycée il n'y a pas si longtemps, on servait du cidre au plus grand. Je voudrais qu'on dise un mot peut-être de l'autre boisson avant de s'occuper du vin. Une autre boisson importante, c'est la bière, qui se produit dès le Moyen-Âge. C'est même une boisson reine. Et puis, alors, vous expliquez dans votre ouvrage qu'à partir du XIVe siècle, on commence à produire en France de la bière de manière presque pré-industrielle. Donc là, il y a un vrai engouement pour cette boisson, à la fois forte en goût et pas trop difficile à produire, Mathieu Lecoutre.
Oui. à partir du XIVe siècle, elle s'affirme vraiment comme une boisson identitaire. C'était déjà en germe avant, mais boisson identitaire, j'allais dire régionalisée, mais c'est complètement anachronique, mais surtout consommée et produite au nord, et à l'est de la France, enfin du royaume de France. Le grand succès de la bière, c'est qu'elle s'affirme sur un champ différent du vin, puisqu'elle apparaît comme, vous le dites, une boisson légère qui désaltère énormément et qui nourrit aussi. Donc ça, c'est intéressant pour les consommateurs, et également ça renvoie, notamment quand elle est produite dans le nord, à des territoires qui ne produisent plus ou qui sont en train de voir disparaître la production viticole. Et comme il y a des céréales, eh bien ils en font du pain et ils en font également de la bière. Mais c'est surtout évidemment au 19e siècle que la consommation de bière devient réellement industrielle, avec l'utilisation du froid industriel, la stérilisation, donc qui permettent de dépasser la saisonnalité de la production et qui permettent de diffuser, de vendre beaucoup plus loin les bières, hein, et donc les diffuser à tout le pays. Et donc c'est notamment en 1850, le début de à Strasbourg, dans le quartier de Cronenbourg, donc d'une grande entreprise qu'on connaît tous, qui commence à diffuser ses boissons à l'échelle du pays.
Avec un succès non démenti pour l'ensemble des producteurs. Dans tout le pourtour méditerranéen, notamment si on s'intéresse au judéo-christianisme, le vin est une boisson bénie, hein, qui est une boisson partagée avec les dieux. Dans le christianisme, elle est même le sang du Christ. Peut-on dire, Mathieu Lecoutre, que vraiment le vin est une boisson à part, et qu'en tout cas, on pourrait faire une histoire du vin en tant que tel?
Ah oui, mais des collègues le font. Enfin, Didier Nourisson, collègue historien, a produit cette année, je crois, une histoire du vin que je vous conseille de lire aussi. Hein.
Avec plaisir.
Voilà. effectivement, le vin... Pour la Méditerranée et surtout pour la France, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la boisson identitaire. Aujourd'hui, on boit 42 litres de vin par an, par habitant. C'est un volume important, mais en fait, c'est en régression également. Hein. Alors, dans mon livre, donc depuis le Moyen-Âge, je montre évidemment que symboliquement, le vin a une dimension extrêmement positive, donc attachée à la religion, mais qui est aussi héritée de Dionysos et de Bacchus, hein, donc de la Grèce et de l'Italie, évidemment, qui est récupérée et christianisée. Lorsque le royaume franc se met en place, donc au 5e siècle, vous avez les aristocrates francs qui sont romanisés, qui récupèrent ce prestige impérial de la culture alimentaire romaine, et qui récupèrent cette habitude de consommer du vin. Et alors, pas à 100%, mais à cette époque, on a une tension entre la tradition germanique, plutôt consommatrice de bière ou de cervoise, puisque la bière, en fait, en tant que telle, c'est de l'orge, mais avec du houblon. Et l'habitude de mettre du houblon, c'est vraiment généralisé au 9e siècle, qu'on n'y est pas encore. Donc, tension entre la cervoise, plutôt germanique, et le vin. Et puis, par la suite, avec la grande poussée de christianisation, avec les moines, les évêques, etc., on a la diffusion de la vigne à l'échelle de tout le royaume. Et une norme de consommation s'impose. Hein, une consommation de vin, et qui n'est pas démentie jusqu'à aujourd'hui, même si la consommation de vin diminue depuis les années 1960 à peu près.
Le vin du Moyen-Âge, Mathieu Lecoutre, il ne ressemble pas du tout au nôtre. Il est coupé, il est boisé, il y a des épices. Racontez-nous un tout petit peu ce vin-là.
Oui. Alors ça, on le sait grâce à des livres de cuisine ou à des livres de médecins qui expliquent comment faire son vin et pourquoi boire tel ou tel vin. On pense que ce vin était moins fort que les vins actuels, donc il possédait moins d'alcool, donc on pense éventuellement 7-8 degrés, alors qu'aujourd'hui c'est 12-13, enfin c'est de plus en plus, hein, mais 12-13 degrés à peu près. Également, on pouvait le couper, vous avez raison, avec des épices, avec de la cannelle par exemple, ou avec du miel aussi. Hein. On pouvait également le couper avec du plâtre. Hein. C'était censé favoriser la conservation et puis aseptiser un petit peu ce vin pour qu'il se garde un petit peu mieux. Par ailleurs, le vin qu'on boit au Moyen-Âge, c'est du vin jeune. En fait, il se garde très peu. On n'a pas toutes les méthodes de conservation actuelles. Et donc, grosso modo, donc il est vendangé en septembre. Il commence à être consommé donc en octobre, novembre. Et quand on arrive au début de l'été, théoriquement, tout le vin de l'année a été consommé. Et au mois de juin, juillet, août, là, on est dans une période de transition un petit peu difficile puisque le vin commence à manquer. Et le vin qui reste risque souvent de tourner. Donc on en fait du vinaigre ou autre, hein, on le jette. Et dans certaines sources du 13e ou 14e siècle, il est intéressant de voir que des médecins écrivent qu'ils ont en cave un vin qui est vieux, et ce vin, il a 4 ans. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, le vin qu'on consomme en moyenne en France, hein, il a 3-4 ans. Voilà. Et c'est aujourd'hui vu comme un vin relativement jeune.
Oui, qu'on n'aurait pas gardé longtemps.
Donc on boit des vins jeunes, on les coupe et on n'a pas tous les grands crus non plus d'aujourd'hui. En fait, la naissance de ces grands crus, c'est à l'époque moderne. C'est à partir du XVIIe siècle un petit peu, et puis ça s'affirme surtout au XVIIIe siècle. Par exemple, le vin de Champagne tel qu'on le connaît, donc avec des bulles, n'existe pas. Enfin, c'est vu comme un défaut. On boit du vin de Champagne, effectivement, qui vient des coteaux de Champagne, mais qui est tranquille. On appelle ça un vin tranquille. Voilà. Ouais. Et puis on boit également le vin qui est apprécié, c'est du vin clairet. Vin clairet, c'est pour comparer à peu près avec ce qu'on boit aujourd'hui, c'est un peu l'équivalent du vin rosé. Donc le vin rosé, il est devenu à la mode dans les années 1970, mais d'après moi, en fait, c'est juste une remobilisation, mais sans le savoir, en fait, hein, d'un type de vin qu'on buvait pendant des siècles au Moyen-Âge. Donc le vin clairet est très apprécié, le vin blanc aussi. Le vin rouge est très peu consommé à l'époque.
Oui,
le vin blanc, ça renvoie...
Plus tardivement,
exactement. En fait, on apprécie le vin clairet et le vin blanc parce qu'ils ont une robe pure, vue comme pure, et étant donné qu'il y a une dimension théologique, bien évidemment, ça renvoie à la pureté de ce qu'on consomme. Voilà.
On va écouter un spot de prévention de la consommation d'alcool qui date des années 2010.
Attends, moi je sais boire. C'est pas comme Michel. Lui, il a l'alcool mauvais.
Non, bon, ça va, hein, je connais mes limites. Hein. Je contrôle, contrairement à Marc.
Moi ? Non, mais Benoît. Ah bah, lui, il boit vraiment trop. Tu l'as vu en soirée ?
Ah ouais. Moi je bois pas tous les jours. C'est pas comme
Bernard.
Non. Entre nous, celui qui a un vrai problème avec l'alcool, c'est Christian.
On préfère toujours se dire que ce sont les autres qui boivent trop. Pourtant, 5 millions de Français ont un problème avec l'alcool.
La valeur de l'homme, une histoire de la boisson. Nous sommes en compagnie de Mathieu Lecoutre. Alors, il y a cette espèce de paradoxe français. En France, on fait du vin, on valorise le vin, on en boit depuis le Moyen-Âge, on le prescrit médicalement. Et en même temps, il y a la crainte de l'ivresse, il y a la crainte de la maladie mentale, de l'addiction. Et il y a d'emblée, très vite aussi, un discours de lutte contre l'ivresse et de lutte contre les boissons alcoolisées, Mathieu Lecoutre ?
Oui, vous avez raison. Dès l'Antiquité, en fait, hein, l'ivresse se situe entre le bien et le mal. On a évoqué Dionysos Bacchus, dieu des vins, des mystères, etc., positivé, mais une ivresse trop régulière, trop excessive, qui ne serait pas sociabilisante, qui serait isolée, récurrente, etc., est déjà, d'ores et déjà mal vue. Et ça dure depuis des siècles. Et puis, on a une prise en charge de la lutte contre l'ivresse qui apparaît dès le Moyen-Âge. Quelqu'un comme Louis IX est vu comme un des premiers souverains à lutter contre l'ivresse. François Ier, en 1536, pénalise l'ivresse et l'ivrognerie. Et en théorie, si on est récidiviste, on peut avoir les oreilles coupées à force de ne pas avoir écouté.
Essorier, ça voilà, s'appelle effectivement.
À force de ne pas avoir écouté tous les conseils qu'on vous donnait. Bon, dans les faits, c'est jamais appliqué parce que c'est très compliqué de laisser peut-être la moitié des Français au bout de 10 ans sans oreilles. C'est surtout la Troisième République. Et depuis la Troisième République, 1873, on commence à lutter vraiment contre l'ivresse. Mais en même temps, c'est le fleuron de l'économie agricole française. Le vin, tous les grands alcooliers. Et aujourd'hui, même avec des campagnes de prévention qu'on connaît, il est très difficile d'attaquer frontalement ce secteur-là parce que c'est de l'enrichissement, ce sont des emplois. Et puis aussi, pour finir, on pourrait dire que finalement, le recul nous montre qu'il faut peut-être laisser... il faut éduquer le buveur et lui laisser son libre arbitre pour ce qu'il essaie de trouver un juste milieu, puisque on a essayé parfois d'être très autoritaire et ça n'a toujours pas fonctionné.
Donc éviter de normer par le haut. Merci beaucoup, oui. Mathieu Lecoutre, pour votre présence. Cette émission s'achève. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le goût de l'ivresse, boire en France depuis le Moyen-Âge, 5e, 21e siècle. C'est paru chez Belin dans la collection Histoire. C'est sorti en 2017. Merci à Emmanuel Demisco à la technique. On se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison de La Valeur de l'Homme. Bonnes vacances.